un podcast France Culture.
Et le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Nous n'avons pas été assez craints, nous n'en resterons pas là. Emmanuel Macron réagit enfin à l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Le président plus mesuré que François Bayrou qui avait parlé de soumission. Le gouvernement qui a réuni à Bercy les filières menacées par la surtaxe de 15%. L'impact est significatif, nous verrons cela avec Marie Viennot. Un homme du Sérail pour diriger Renault, François Provost, l'actuel directeur des achats du groupe, va remplacer l'emblématique Luca de Meo qui avait réussi à redresser le constructeur français. Alerte au tsunami dans tout le Pacifique après le tremblement de terre dans l'extrême-orient russe. Pas de victimes signalées pour le moment, mais les dégâts sont impressionnants dans le Kamchatka. L'Australie va interdire YouTube au moins de 16 ans. Le gouvernement travailliste australien dénonce les algorithmes prédateurs de la plateforme de vidéo. Sa réaction était très attendue. Emmanuel Macron a enfin livré son sentiment sur l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne qui prévoit une surtaxe de 15% pour les produits européens. « Nous n'avons pas été assez craints », a dit le chef de l'État au Conseil des ministres ce matin. Emmanuel Macron, qui n'a pas vraiment apprécié l'annonce de cet accord dimanche dans le golfe écossais de Donald Trump, où s'était rendue la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Marion Ferrer, bonsoir.
Bonsoir.
La réaction Emmanuel Macron est toutefois moins virulente que celle de son Premier ministre François Bayrou.
Il n'y a pas question de parler de soumission ni de jours sombres. Les éléments de langage utilisés par le reste du gouvernement sont de nouveau mis sur la table. Emmanuel Macron regrette un accord déséquilibré mais qui a le mérite de donner de la visibilité. Le chef de l'État veut voir le verre à moitié plein, assure Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement.
Nous sommes satisfaits qu'un certain nombre de lignes rouges qui avaient été posées par la France et par un certain nombre de partenaires aient été tenues, par exemple sur les produits agricoles, en matière de normes sanitaires, en matière de normes sur le numérique. Nous n'avons pas fait non plus de concessions sur la TVA et nous avons protégé un certain nombre d'industries qui sont très importantes pour la France. Vous connaissez l'accord d'exemption sur l'aéronautique.
Le président reconnaît donc que l'accord ne le satisfait pas. L'Europe, déplore-t-il, ne s'impose pas suffisamment comme une puissance au point d'aller négocier ce texte dans le golfe privé du président américain en Écosse. Or, comme devant les armées il y a 15 jours, le président le martèle. Pour être libre, il faut être craint. Et à ce stade, nous n'avons pas été assez craints. Emmanuel Macron, qui l'affirme, je cite, « nous n'en resterons pas là ».
Il reste véritablement des négociations à mener avec l'Union européenne et avec nos partenaires américains pour avoir des détails secteur par secteur et pour avoir le contenu exact de ce qu'il y a dans cet accord.
Mais la date butoir de ces négociations est connue. Vendredi 1er août, l'UE et les États-Unis doivent dévoiler une déclaration commune, date fixée par Donald Trump.
Marion Ferrer, merci. Après ce Conseil des ministres, plusieurs membres du gouvernement se sont retrouvés à Bercy pour accueillir les filières françaises impactées par l'accord. Réunion sous la houlette du ministre de l'économie, Éric Lombard, accompagné de 5 autres membres du gouvernement. On retrouve à Bercy Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Marie, la réunion s'est achevée il y a un peu plus d'une heure. Elle a été l'occasion pour tous les participants de préciser justement l'impact de ces droits de douane à 15% qui s'appliqueraient à l'avenir.
Oui, ce qui a permis aux 6 ministres présents à la réunion, donc je le rappelle, économie, numérique, agriculture, consommation et commerce extérieur, d'avoir une vision plus précise et exhaustive des conséquences du passage à un droit de douane de 15%. Ce dialogue se poursuivra à la rentrée, promet le ministre de l'économie, qui a résumé en deux mots l'état d'esprit de tous les participants, soulagement et déception. Soulagement de ne pas avoir 30% de droits de douane et déception que ce soit 15%. Alors comparé aux 2% qui prévalaient en moyenne avant avril, c'est beaucoup, mais comme 10% s'y était ajouté depuis, le choc ne sera pas si brutal, a voulu rassurer Éric Lombard. Alors le deuxième message des ministres aux acteurs économiques, c'est qu'il n'y a pas d'accord signé et que rien n'est perdu. Pour Laurent Saint-Martin, le ministre du Commerce extérieur, c'est un accord politique, pas un accord commercial. Les négociations se poursuivent, nous dit-on, la France pousse pour que les vins et spiritueux fassent partie des exemptions et ce serait en bonne voie pour les spiritueux défectueux. Mais quand le saura-t-on? Quand aboutiront les vraies négociations? À cette question, la ministre de l'Agriculture avoue qu'à ce sujet, son niveau d'information est assez proche de celui des journalistes qui lui posent la question. En ce qui concerne les aides qui pourraient être apportées au secteur mis en difficulté, les ministres ne se sont pas engagés, mais ont rappelé l'agenda pro-entreprise du gouvernement. Pas d'augmentation d'impôts et de cotisations dans le prochain budget, de nouvelles mesures de simplification et côté européen, la protection des secteurs économiques attaqués par la Chine. La Chine, son différend avec les États-Unis et la façon dont elle le réglera, ce sera aussi un sujet pour nous à l'avenir, confié d'ailleurs à la sortie de la réunion l'un de ses participants.
Marie Viennot en direct du ministère de l'économie à Paris avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Les Français et les Européens en général pourront toujours se consoler en constatant que Donald Trump est encore plus sévère avec l'Inde. Le président américain annonce sur son réseau Truth Social 25% de droits de douane pour les produits indiens exportés aux États-Unis. Donald Trump qui promet aussi une pénalité à l'Inde pour l'achat de pétrole à la Russie. Dans ce contexte mondial chahuté, l'économie française résiste mieux que prévu. Avec une croissance de 0,3% au second trimestre, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Croissance portée notamment par la consommation des ménages, Isabelle Raymond.
Ils sont rassurants, ces chiffres, puisqu'ils signifient que la France a créé davantage de richesses dans un contexte extrêmement incertain. Une croissance à 0,3%, c'est peu, mais c'est mieux qu'au premier trimestre et que les prévisions initiales de l'INSEE, et cela grâce à la consommation des ménages repartie à la hausse. Entre avril et juin, grâce au week-end prolongé, à une météo favorable, les Français ont davantage dépensé en hôtels, en restaurants, en nourriture. En revanche, d'autres indicateurs de l'économie restent dans le rouge. Les investissements des entreprises et la balance commerciale, on apporte toujours plus qu'on exporte. Pour l'ensemble de l'année 2025, le gouvernement mise toujours sur une croissance à 0,7%. C'est plus que le consensus des économistes. Un accord a certes été trouvé sur les droits de douane avec les États-Unis, ce qui rend le contexte international un peu plus lisible. Mais l'échéance budgétaire approche, avec ses plus de 40 milliards d'euros d'économies promis par le gouvernement. Et dans pareil cas, habituellement, les Français épargnent davantage qu'ils ne dépensent, ce qui risque de gripper le principal moteur de la croissance française.
C'est officiel, le groupe Renault vient de nommer son nouveau patron et c'est François Provost, l'actuel directeur des achats et des affaires publiques du constructeur automobile qui va succéder à Luca De Meo pour partie diriger le groupe Kering. Ingénieur de formation, François Provost est un pur produit Renault, soutenu d'ailleurs par Luca De Meo. Azaïs Perronin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors comment expliquer ce choix de François Provost pour diriger Renault ?
Dans la dernière ligne droite, un recrutement interne et stratégique a été privilégié. Le président du conseil d'administration de Renault, Jean-Dominique Sémard, a immédiatement salué l'expertise et la connaissance de l'entreprise de François Provost. Le nouveau directeur général est un pur produit de la maison. Il a fait l'essentiel de sa carrière chez Renault, qu'il intègre en 2002. Trois ans plus tard, il devient directeur de la marque au Portugal. Puis il prend la direction de Renault en Russie, devient ensuite PDG de la filiale coréenne et rejoint la zone Asie-Pacifique en 2016, où il est en charge des opérations. Il a donc un profil très international et c'était là une attente du conseil d'administration qui veut redonner à la marque aux losanges une assise mondiale. Renault pourra compter sur François Provost et sa réelle maîtrise du marché chinois. L'ingénieur de formation connaît d'ailleurs bien le constructeur chinois Geely et pourra engager un approfondissement de la coopération. François Provost est aussi un profil rassurant puisqu'il incarne une forme de continuité. Il a été parmi les membres les plus actifs dans la conception du plan stratégique Futurama, la nouvelle feuille de route présentée par Luca De Meo avant de partir. C'est aussi lui qui a piloté le précédent plan de transformation Renaultution, une opération qui a sauvé l'entreprise en l'orientant vers des véhicules plus haut de gamme. Mais à moyen terme, Renault va devoir répondre à l'enjeu de massification des véhicules électriques. C'est ce que soutient le spécialiste de la filière automobile française Bernard Julien. Dans une industrie en pleine mutation, le constructeur va devoir relever le défi de l'électrification en proposant des voitures accessibles.
Explication signée Azaïs Perronin. Bruno Retailleau fait entendre sa différence sur le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse en Conseil des ministres ce matin. Le ministre de l'Intérieur a exprimé son désaccord sur le texte. Le gouvernement a décidé de ne pas tenir compte de l'avis du Conseil d'État qui voulait retirer la notion de communauté corse dans le projet de loi. 18h09 sur France Culture, on poursuit ce journal avec ce séisme dans l'extrême-orient russe, la région qui n'avait jamais connu un tremblement de terre aussi puissant, une magnitude de 8,8 pour le séisme survenu aujourd'hui au large de la péninsule de Kamchatka. La secousse a déclenché des alertes au tsunami dans presque tout le Pacifique. En Russie, les dégâts matériels sont importants, notamment dans les îles Kouriles au nord du Japon, mais il n'y a pour l'heure aucune victime identifiée. On retrouve donc à Moscou, Jean-Didier Revoit.
Ces bruits sont ceux des murs d'un appartement qui danse, des armoires qui s'ouvrent et de leur contenu qui se répand sur le sol pendant un séisme qui dépasse 8 sur l'échelle de Richter. Les habitants ont été pris par surprise, comme cette dame de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, interrogée par la télévision russe, qui vit au cinquième étage d'un immeuble du chef-lieu de la région du Kamchatka.
Les tableaux sont tombés par terre, les portes des armoires se sont ouvertes, comme les tiroirs des commodes. En tout cas, nous avons eu très peur.
Mais si les habitants ont pu évacuer leur logement, tout le monde n'a pas pu en faire autant. La télévision russe et les réseaux ont montré des médecins héroïques. Sur les images, on voit une équipe en pleine opération chirurgicale plaquer leurs patients sur la table et sécuriser tous les équipements en attendant que le calme revienne alors que tout vacille autour d'eux. Mais le tsunami qui a suivi ces secousses a fait de très importants dégâts matériels. Dans les îles Kouriles, 4 vagues du tsunami se sont abattues sur Severokourilsk, chef-lieu local, jusqu'à 200 mètres de la rive, suscitant l'inquiétude des habitants.
Oh là là, l'eau monte! Une voiture est restée là-bas et des gens aussi.
Le port de la ville a été complètement submergé, des bateaux au mouillage ont été entraînés au loin alors qu'une usine de transformation de poissons n'a pas résisté, au grand dam d'une de ses employées.
Notre usine est sous l'eau.
Heureusement, aucune victime n'est à dénombrer. Les habitants vivent désormais dans la peur d'une réplique susceptible de créer un nouveau tsunami.
Et cette alerte au tsunami concerne aussi la Polynésie française. Des vagues d'environ 4 mètres pourraient toucher les îles Marquises dans les prochaines heures. Tous les services de l'État sont mobilisés pour protéger nos concitoyens, écrit Emmanuel Macron sur le réseau X. J'en appelle à la vigilance. Suivez les consignes des autorités locales, ajoute le chef de l'État. Alors que la France envisage d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, l'Australie va encore plus loin. La plateforme de vidéos YouTube sera interdite au moins de 16 ans dans le pays qui a déjà pris une telle mesure pour les réseaux. Avec cette première mondiale, le gouvernement travailliste australien veut protéger les enfants contre, je cite, les algorithmes prédateurs. Les explications de Virginie Pironon.
Pour la ministre australienne des communications, la travailliste Annika Wells, protéger les enfants des dangers d'Internet, c'est comme leur apprendre à nager en pleine mer, au milieu des requins, alors qu'ils pourraient le faire dans une piscine municipale. Nous ne pouvons pas contrôler l'océan, dit-elle, mais nous pouvons contrôler les requins. En novembre 2024, l'Australie avait déjà adopté une loi pionnière interdisant l'accès aux moins de 16 ans aux réseaux sociaux comme TikTok, X ou encore Facebook et Instagram. Les autorités ont donc décidé d'ajouter YouTube. 2 enfants australiens sur 5 disent y avoir visionné des contenus inappropriés. Concrètement, les adolescents pourront toujours regarder des vidéos, mais ils ne pourront plus avoir de compte nécessaire pour interagir ou télécharger du contenu. Si YouTube ne coopère pas, la plateforme américaine, comme les autres sites visés, risquera une amende pouvant aller jusqu'à 28 millions d'euros. Selon des médias australiens, Google, propriétaire de YouTube, menace le gouvernement australien de poursuites en justice. Un bras de fer qui sera observé de près par d'autres pays, la Norvège ou le Royaume-Uni par exemple, se préparant eux aussi à prendre des mesures similaires.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. Terminons ce journal en Belgique, à Bruges, une ville qui a décidé de prendre des mesures contre le tourisme de masse. Chaque jour, des dizaines de milliers de visiteurs envahissent le cœur médiéval de la cité flamande, surnommée la Venise du Nord. En haute saison, cela représente l'équivalent de 130 touristes pour 100 habitants. Insoutenable pour la commune qui a fait le choix de limiter le nombre de visiteurs. Le reportage à Bruges d'Elsa Lossouarn.
Difficile de se frayer un chemin dans la petite rue vers la grande place de Bruges. Dès le matin, la ville est prise d'assaut par des touristes du monde entier comme Alba, venue du Mexique en famille.
On ne va pas dormir ici, mais on va passer la journée complète, visiter Bruges. Et après, nous allons aller à Gand pour une journée entière aussi.
C'est précisément ce type de tourisme à la journée que la mairie veut encadrer. Cela représente 7 des 8 millions de touristes annuels. À partir de 2027, ceux qui arriveront en car ou en paquebot devront payer une taxe et la taille des groupes de visiteurs sera limitée à 20. une mesure de justice pour l'adjointe au tourisme Mino Esquenet.
Il y a des associations qui offrent une journée en Belgique et ils visitent 3 villes dans une journée pour 50 euros. Donc par exemple, ils visitent Gand, Bruges, Anvers. Donc ils viennent en masse. Un bus de 60 personnes, c'est beaucoup, hein, en une fois.
Chez ceux qui vivent du tourisme, la mesure divise, mais Jesper, guide touristique à Bruges, n'est pas inquiet.
I'm fully booked, like the coming 2 months.
Je suis complet pour les deux prochains mois, donc non, je ne pense pas que ces mesures vont affecter mon travail. Il y a tellement de monde dans les rues, et ça ne fait qu'empirer, donc je comprends pourquoi ils font ça.
Yeah, I can understand why they do that.
Des mesures suivies de très près par la ville de Gand, commune proche, elle aussi très affectée par le tourisme de masse.
Bruges face au surtourisme, un reportage signé Elsa Lossouarne. Un mot du temps demain, une nouvelle perturbation pluvieuse touchera la moitié nord de la Bretagne au Grand Est, au sud un ciel mitigé entre nuages et éclaircies. Mais le soleil dominera sur les régions méditerranéennes, les températures minimales iront de 13 à 21 degrés. L'après-midi, il fera entre 21 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alix Forgeot.